Alors, le titre vous a été donné, je vais vous parler de matériaux qui sont déjà un petit peu anciens, collectés et, dans une thèse qui était soutenue en 1997. Mais je pourrais peut-être vous dire sur la fin deux mots, sur, bon, peut-être en répondant à des questions. Je continue de travailler sur les écrits, moins sur les agendas que sur des écrits qui sont beaucoup plus standardisés, normalisés, écrits qui sont sollicités par les administrations dans le cadre de mesures agri-environnementales, dans le cadre dans le cadre de démarches qualité, donc autrement dit des écrits qui répondent à des exigences de traçabilité, et j'essaie de voir comment une tradition d'écriture relativement libre, d'écrit à soi. Les agendas sont des écrits que possède, que se destine l'agriculteur, peuvent s'articuler à des demandes extérieures de traçabilité. Alors, sur le titre de ma thèse qui était un petit peu long, je voulais juste dire deux mots. Je rangeais donc sous ce titre, hein, aperçu historique et lecture de pratique, les deux versants de l'analyse que je présentais alors. Le premier versant de l'analyse entre dans l'histoire de la modernisation de l'agriculture, en particulier dans celle de l'enseignement et la vulgarisation agricole. Je vous en donnerai un petit aperçu. Et puis le second entre par l'observation approfondie de collections d'agendas tenues par quelques agriculteurs de Haute-Saône. Écriture du travail et savoir paysan, qui est l'entame du titre de la thèse. En fait, j'annonce ici la thèse principale, qui est que l'écriture se lie à des projets de savoir. Et donc, j'essaie d'explorer, de comprendre quels étaient ces liens entre l'écriture du travail, qui est contenue dans l'agenda, et la construction d'une expérience professionnelle et de référence sur le travail. Principalement, mais pas uniquement, on le verra plus tard. Mon intention était de montrer qu'avec un petit support en apparence très banal, l'agenda, sur lequel très peu de chercheurs s'étaient arrêtés, que ce support finalement si banal pouvait éclairer d'importantes questions, qui sont celles de l'acculturation de la paysannerie à l'écriture, qui sont celles aussi du processus de rationalisation de l'agriculture entre le XIXe et le XXe siècle. Donc voilà pour l'ambition. Je vais vous indiquer tout de suite comment j'ai découvert un peu, fait la trouvaille des agendas, puisque c'est un peu d'usage en sciences sociales que d'indiquer les circonstances dans lesquelles on investit sur un temps long tel ou tel objet de recherche. Alors, c'est important dans mon cas parce qu'en fait, l'orientation de mon travail a tout de suite été donnée, posée dans les premiers éléments d'échange que j'ai eus avec les agriculteurs autour de leurs écrits. Donc à l'époque, ensuite, donc je vous présenterai ma méthode de travail en mettant plus l'accent sur le volet ethnographique. Hein, j'ai deux volets d'analyse. Je vous renverrai à des travaux, des publications plus récentes sur la partie historique. Je vais vraiment survoler avec quelques diapos. Et donc je vais vraiment vous indiquer, vous expliquer comment j'ai travaillé sur des collections d'agendas. Et puis ensuite, quel type d'analyse j'ai pu mener, quel portrait d'écrivain j'ai proposé. Voilà, donc la trouvaille, en fait, comme toute trouvaille, celle des agendas est un peu le fruit du hasard qui a mis en éveil ma curiosité. Dans les années 90, je travaillais sur la question de la transmission des savoirs agricoles. J'avais proposé à des agriculteurs qui accueillent des stagiaires. Pour ceux qui connaissent, c'était le stage de 6 mois à l'installation. Donc les agriculteurs tutoraient de futurs jeunes se destinant à prendre les rênes d'une exploitation. Et je leur avais proposé de noter dans un petit carnet les activités qui se déroulaient durant une semaine. Or, un jour, un viticulteur m'a appris donc en Côte d'Or qu'il notait tous les jours son travail et qu'il me laissait entendre que je ne lui demandais rien du tout d'extraordinaire en l'obligeant à coucher sur le papier quelques indications quotidiennes sur ses activités et notamment ses discussions avec le stagiaire. Il avait ajouté également que son écriture n'était rien comparée à celle de son grand-père qui avait tenu un journal et relaté toute l'histoire de l'exploitation et du village, sa vie durant. Bien, j'avais mis ça sur le compte d'une particularité familiale et sans plus. Mais il se trouve que 2 jours après, je continuais mes enquêtes, toujours à demander à des exploitants de noter des choses dans un carnet. Et c'est cette fois-ci un céréalier en Saône-et-Loire qui sort un agenda de son tiroir en m'indiquant qu'il ne pouvait pas travailler sans cela. Et donc, la proximité en un temps court d'agenda qu'on me mettait sous les yeux Et bien sûr, en m'en parlant comme un outil très utile, d'ailleurs les maîtres de stage conseillaient à leurs stagiaires de tenir un agenda. Certains obligeaient leurs stagiaires à prendre un carnet durant la durée de stage. Donc, on orientait aussitôt un peu ma réflexion. Alors, en fait, j'ai prolongé pour asseoir un peu. J'étais mise en éveil, effectivement, et j'ai utilisé le fait que je faisais des interventions dans les formations d'agriculteurs sur quatre départements. Pour, de façon un petit peu improvisée, presque sauvage, négocier 10 minutes de discussion autour des écrits dans les exploitations. Alors, l'objectif, effectivement, était de savoir si cette habitude d'écrire était plus ou moins répandue et de sonder un peu le terrain. Trois constats par rapport qui vont m'aider à élaborer mon sujet de thèse. Premièrement, les pratiques d'écriture paraissaient hétérogènes mais consistantes. En gros, sur des groupes d'une vingtaine d'agriculteurs, j'avais bien des exploitants qui me disaient « on n'attend rien du tout dans le travail » et puis d'autres qui tenaient des agendas ou qui, en tout cas, déclaraient sans embâge avoir une écriture très régulière, tout à fait presque spontanée, naturelle à leurs yeux, dans leur activité. C'était l'agenda qui était le support privilégié lorsque l'agriculteur était assidu à l'écriture. J'avais un peu sondé dans des discussions vraiment très libres. D'ailleurs, c'était tout à fait original parce que les agriculteurs étaient un peu désarçonnés par le sujet au départ dans les groupes. Et puis, il y avait des tas de choses qui sortaient, les femmes qui notaient, les écritures à plusieurs mains, quelques petites blagues. Parce qu'il est de bon ton de railler celui qui note un peu tout de façon trop minutieuse. Des réputations d'écrivains. Bref, j'avais l'impression, en tout cas, et quelques éléments déjà de preuve, de la consistance de ces pratiques. Deuxième idée importante, souvent il ressortait dans les échanges libres que ces pratiques d'écriture avaient une origine familiale. Une figure emblématique, un grand-oncle, un grand-père, une grande-tante, etc. Que dans les familles où on écrivait plutôt beaucoup, a priori, les écrits anciens étaient conservés. J'avais posé quelques questions dans ce sens, donc on pouvait penser que l'écriture courait parfois, dans certaines familles, sur plusieurs générations. Et puis, premier élément de connaissance, hein, de défrichage de ces pratiques d'écriture, a priori, elles étaient socialisées et certainement classantes. Socialisées, puisque finalement, c'était un objet un peu mineur, mais quand on posait des questions, les langues se déliaient et on trouvait très facilement, on pouvait assez facilement identifier des réputations d'écrivains, de personnes ayant des agendas. Donc une certaine visibilité, sans doute pas pour tous, mais c'était un point important parce que ça me permettait d'accéder à des écrivains pour faire un travail plus approfondi. Classante parce que d'emblée il y avait la notion que tenir des agendas c'était bien tenir l'exploitation. Des données qui sont apparues de façon importante dans les échanges entre agriculteurs. Certains jouaient un rôle de mémorialiste en ayant non seulement la mémoire du travail mais la mémoire de la météo, la mémoire de quelques événements locaux qui intéressaient le groupe social des agriculteurs dans les villages. D'où l'idée donc que l'écriture pouvait être non seulement une pratique socialisée, mais une pratique classante qui extrayait, distinguait du commun. Alors, quel a été à partir de là mon cheminement de recherche face à ces pratiques et face à un discours social et à une recherche en champ social étrangement silencieuse sur ces pratiques d'écriture ordinaire? Alors, un quadruple, si je suis rigoureuse, souci. D'abord, j'ai eu un souci, donc je me suis lancée sur... J'ai changé un peu mon sujet de thèse, qui n'était pas celui-là au départ. Je travaille sur la transmission des savoirs professionnels, donc je l'ai vraiment focalisé sur la pratique de l'écriture, mais en gardant bien la perspective de comprendre la connaissance élaborée, transmise, acquise et transmise au travers de l'écriture. Et donc, premier effort qui me semble important, c'était de tenter une catégorisation de ce support que j'avais identifié, l'agenda. Est-ce qu'il y avait un genre agenda? Comment ce support d'écriture se situait-il par rapport à d'autres pratiques d'écriture étudiées? Un effort ensuite de construction sociologique de mon objet. Comment ces pratiques de l'écrit s'étaient-elles constituées? quelle continuité entre les écrits des générations précédentes et les agendas tenus aujourd'hui, quelles étaient les caractéristiques sociales, professionnelles des agriculteurs scripteurs. Troisième chose, j'avais un besoin de délimiter mon champ de recherche dans une double direction, puisque le questionnement prend d'emblée la dimension historique et la dimension exploration des pratiques. Donc, pour la partie historique, comment se mettre sur la trace des agendas et plus largement des écrits paysans. Pour la partie ethnographique, avec quels agriculteurs travailler. Et puis enfin, j'avais besoin d'établir une méthodologie d'enquête qui croise l'étude des écrits et le recueil du discours sur l'écriture. Alors, c'est peut-être une des particularités hein, dans le champ des travaux de recherche existants sur les écrits du travail. J'ai étudié à la fois des contenus, des matériaux, fait un travail que je vais vous présenter rapidement, de description assez fine, à la fois des formats d'écriture, des contenus, mais également j'ai fait discourir sur l'écriture, et non seulement sur l'écriture, mais sur la trajectoire des agriculteurs, de façon à relier cette pratique à des positions sociales, à des trajectoires de vie, familiales, etc., et à leur donner un peu plus de chair au plan sociologique. Et en la matière, il n'y avait pas trop de précédents. J'entame ma première partie. Je vais vous caractériser rapidement le support agenda au regard du champ des écritures proches, ordinaires ou autres, on verra les termes. Et puis ensuite, vraiment un petit éclairage rapide sur la partie historique et je zoomerai sur l'enquête ethnographique. Alors, l'écriture couchée dans les agendas a comme horizon, si vous avez lu le résumé, et je pense que vous n'avez plus trop surprise maintenant avec la publication de l'ouvrage d'Yves Madeline et de Jean-Marc Morisseau, puisque si vous avez regardé les contenus des agendas, vous savez que l'horizon de l'écriture, c'est le quotidien de la ferme. C'est une écriture qui, en général, fixe essentiellement des choses utiles pour travailler et gérer. Donc là, je vous donne des grandes caractéristiques que je vais affiner, nuancer. L'écriture n'a pas pour horizon unique le travail, mais c'est sa dominante. Quelques mots suffisent donc pour camper le travail au champ, lieu, tâche, outillage, accompagné selon les scripteurs de précisions plus ou moins techniques. Dans certains agendas, on le verra, des doses d'engrais, des réglages du matériel sont indiqués, des observations sur la qualité des sols, les hectares travaillés, et puis des éléments chiffrés sur les bilans des récoltes. Le travail des animaux est saisi dans ses principaux événements, vélage, mise à l'herbe, du troupeau, alimentation, soins, vente des bêtes, et puis en part tout à fait infime, mais significative à mon point de vue, les notes comportent, fixent quelques éléments de la ronde de la ville, les naissances, les mariages, décès, maladies des proches, etc. Et puis, pour certains scripteurs, quelques activités personnelles ou familiales. Le style est télégraphique, les formules extrêmement stéréotypées, l'emploi du jeu rarissime, j'en ai quelques fois au fil du temps, qui se mettent à parler à la première personne, enfin écrire à la première personne. Donc d'évidence, l'agenda relève du champ des écrits du travail tels qu'ils ont été étudiés, mais alors étudiés relativement récemment. Hein. C'est un courant de recherche avec lequel j'ai qui a été institutionnalisé dans les années fin des années 80, qui s'intitule Langage et travail. Il y a si vous voulez avoir une vue de synthèse, il faut vous reporter un ouvrage qui a été publié par Annie Borzex et Béatrice Frankel, Langage et travail. Donc c'était le nom du réseau et ce réseau était très très ouvert, rassemblant ethnologues, linguistes, anthropologues, sociologues, historiens, autour de la question de la présence des écrits au travail, tout secteur confondu. Bon, il se trouve que j'ai été identifiée, mais bien après avoir fait ma thèse, mise en relation avec ce réseau, avec lequel j'entretiens des liens réguliers, mais après coup, je n'ai pas pu bénéficier de leur apport au moment où je travaillais. Donc, des écrits du travail. On pourrait aussi classer les agendas, et cela a été fait, je pense aussi, dans votre travail. Vous faites référence à la notion d'écriture ordinaire, qui est une notion qui a pris... qui est mise en avant depuis les travaux qu'a coordonné Daniel Fabre sur la question des écritures ordinaires. Il y a eu un appel d'offres de la mission du patrimoine ethnologique en 1993 et 1994 sur ce sujet. Et donc, il y a eu quantité de travail de terrain explorant des contextes de production extrêmement variés, du domestique au professionnel en passant par l'intime, et étudiant, examinant des écrits vraiment de nature très hétéroclite, des correspondances médicales, des listes d'achats, des billets votifs, etc. Alors, le point commun, et ça peut être intéressant pour commencer à caractériser l'agenda, parce qu'on se retrouve bien dans ces caractéristiques. Alors, que dit Daniel Fabre et bien sûr tous les chercheurs qui ont travaillé dans ce programme? Il y a trois dénominateurs, si on raisonne en termes de dénominateurs communs à ces pratiques d'écriture qui, a priori, couvrent un large spectre de sujets et empruntent des formes extrêmement diverses. Un, ce sont des écritures, des pratiques de non-professionnels de l'écriture, autrement dit des non-experts. Deux, le destinataire peut faire défaut, c'est un point extrêmement important. Ce sont des écritures qu'on s'adresse principalement à soi ou à un cercle relativement limité, le voisinage, le milieu professionnel, bon, dans le cas de correspondance médicale, bien sûr, au médecin, etc. Ou à Dieu quand on cherche à glisser un billet votif sous une statue. Mais voilà, en général, le destinataire peut faire défaut. Ou alors, quand il y a aussi publication de ses écrits, c'est souvent des écrits à compte d'auteur. Et puis, troisième caractéristique, l'occasion de la prise d'écriture est extrêmement variable. Elle va de l'obligation au libre choix. Bon, dans le cas de l'agriculteur, on peut dire des agendas, ce sont des pratiques personnelles, mais on le verra avec l'approche historique, qui sont fortement recommandées, encouragées, prescrites, et puis parfois imposées, si on prend le cas du stagiaire qui doit tenir son petit carnet durant la période de stage. Donc il y a bien cette dimension également présente, hein, du rapport à l'obligatoire et au libre choix. On peut encore ajouter à l'hétérogénéité des situations et des fonctions de l'écriture le métissage des registres, et c'est un point qui a intéressé beaucoup les ethnologues, mais aussi la sociologue que je suis, parce qu'il y a derrière des enjeux théoriques importants. En effet, les gens qui... Tout ce qu'on classe derrière l'étiquette écriture ordinaire, derrière, on a des scripteurs qui allient selon un dosage assez spécifique, usage privé, usage social. Hein, on est toujours à la charnière de ces deux mondes, liberté d'expression ou conformisme. Je vous ai dit que ces écrits étaient quand même très stéréotypés, hein, comme s'ils suivaient des canevas. Et d'ailleurs, les canevas se répètent de génération en génération. Souci de soi et relation à autrui. Donc, des registres... voilà, à cheval entre des sphères qu'on a l'habitude d'opposer. Donc voilà pour la notion d'écriture ordinaire, et donc je classerai volontiers l'agenda sous le régime des écritures ordinaires. Et il y a une notion peut-être que pour les historiens elle va parler, certains l'utilisent peut-être, les historiens médiévistes et notamment en Allemagne utilisent la notion de pragmatische Schriftlichkeit, les écritures pragmatiques ou pratiques. Et je trouve qu'on est encore plus près des agendas si je vous donne la définition suivante. Pour les médiévistes, hein, qui s'intéressent aux pratiques de l'écrit dans ces formes ordinaires, en fait, ils classent sous cette notion toutes les formes d'utilisation de l'écriture et de texte qui servent immédiatement à des affaires pratiques ou qui veulent orienter l'activité par la mise à disposition de connaissances. Et donc, entre l'intention, effectivement, le registre de l'utilitaire et l'intention de connaissance, je trouve que l'agenda se situe vraiment bien sous cette appellation d'écriture pratique. Alors, pour finir aussi dans le panorama des catégorisations, on peut bien sûr rapprocher les agendas du livre de raison. Je pense que ça a été fait par beaucoup d'autres auteurs, historiens principalement, puisque c'est peut-être même la première catégorisation qui résonne dès qu'on regarde le contenu, le quotidien, l'escension, le prosaïque, hein, du quotidien, articulé parfois autour du conte. Pas systématiquement. Donc on a tous ces éléments effectivement qui sont présents. Par contre, je le mettais dans le résumé, le livre de raison se concentre un peu plus sur le domestique, me semble-t-il, le lignage et le récit d'expérience. Sylvie Moussa disait livre de raison, livre de maison, tandis que l'écriture qui m'a intéressée avec les agendas se rive vraiment à l'activité agraire et donc déroule au fil des années d'imperturbables chroniques. qui sont, je pense, souvent plus arides et qui ont peut-être aussi un peu rebuté certains chercheurs. Il y a beaucoup de répétitions quand on ouvre des agendas et surtout quand on a devant soi une trentaine d'agendas alignés qui résument l'écriture d'une carrière professionnelle. On peut s'interroger sur le fait qu'il y ait peu de travaux sur ces écrits, mais je ne vais peut-être pas développer. Chaque discipline a fait son autocritique. Les historiens, Arlette Farge par exemple, avec le bracelet de parchemin, a montré comment l'historien avait été aveugle, elle parle de cécité, parce qu'il n'avait pas su voir, pensant que les populations étaient déshéritées économiquement, qu'elles ne maîtrisaient pas l'écrit. Donc il y a comme ça quelques... Les anthropologues ont fait de même, de Daniel Fabre, en montrant que toute la discipline s'était construite en rejetant l'écrit hors de leurs frontières, jugeant la parole, les gestes, plus authentiques, et renforçant le clivage société avec et sans écriture. Pour les sociologues du travail, là aussi, on peut s'interroger. Je l'ai fait dans quelques articles. Curieusement, on a un courant à partir des années 70, après mai 68, de sociologues du travail qui vont dans les entreprises, qui s'établissent et qui développent toute une analyse très fine du travail réel par rapport au travail prescrit et qui n'aperçoivent pas les écrits présents dans les entreprises et qui ne s'intéressent qu'à la gestuelle, au savoir-faire, liés au sens essentiellement, mais qui rate la dimension graphique des compétences des ouvriers et des travailleurs en général. Donc je passe vite là-dessus et je rentre donc dans... Ah oui, alors peut-être sur la... J'ai bien sûr signalé votre travail tout récent sur les agendas. Il y a eu quelques anthropologues qui ont quand même exploré de façon très intéressante. Donc il y a par exemple Tina Jolas et Solange Pinton qui ont fait un joli, vraiment, article qui touche bien toutes les facettes de l'écriture sur un paysan de Creuse. Le journal d'un paysan de Creuse. Marion de Mossier avait fait tout un travail de recensement, d'archivage très très fin en tant qu'anthropologue sur les écrits vignerons, sur trois vignobles français, en couvrant le 18e, du 17e à nos jours. Donc un premier travail de recensement et de catalogage de ces écrits qui est intéressant. Christian Bromberger, Marie-Hélène Dufour ont regardé de près un agenda... des agendas paysans tenus en 1952 de maraîchers, Michel Salmona. Voilà, donc on a des... Il y a quand même quelques éclairages. Ce qui me distingue peut-être pour finir sur la... Puisque j'ai essayé de catégoriser un peu mon objet, en fait, il y a une perspective qui est sensiblement différente, donc je voulais quand même la pointer ici. Les travaux qui existent, qui sont proches, saisissent en général l'écriture plutôt comme des pratiques singulières d'acteurs isolés. Alors que je voulais enraciner précisément, en tout cas interroger l'enracinement familial et social de ces pratiques de l'écriture. Et donc comprendre, à proprement parler, leur dimension plus sociologique. C'est le premier point de différence qui fait que je n'ai pas pu vraiment m'appuyer sur la façon de travailler des travaux précédents, même s'ils sont marginaux. Deuxième différence importante, c'est que je me préoccupais peut-être moins de savoir ce que ces écritures pouvaient m'apprendre sur les scripteurs, leurs conditions de vie, les transformations du monde rural... dont l'écriture capte des éléments, leur univers de pensée, leur entourage, la sociabilité villageoise. Tout ça, effectivement, on peut le faire et vous le faites tout à fait bien au travers de Pierre Le Bugle. D'autres l'ont fait aussi sur quelques documents, de façon moins systématique. Donc c'était moins comprendre ce que je pouvais apprendre de l'écriture que de comprendre comment l'agriculteur, lui, apprenait à partir de ce qu'il apprenait sur son travail. Donc c'est vraiment la démarche d'apprentissage de l'agriculteur à travers l'écriture. C'est un peu une inversion du questionnement. Je ne cherche pas à savoir ce que je vais trouver dans les agendas, mais comment l'agriculteur, lui, apprend et sait des choses à partir de ces agendas. Donc, du coup, j'ai ce renversement de perspective. Il m'a obligé un petit peu à bricoler. Je vous indique, en termes de méthodo, comment j'ai travaillé. Sur la partie historique, je vais être rapide. Et là, je vais vous montrer quelques diapos, enfin, des illustrations. Alors, de façon très lapidaire, j'ai On peut travailler sur deux volets. D'abord, travailler, étudier l'émergence de modèles livresques et le développement d'une production éditoriale, puisque les agendas, ce sont des documents édités par des papetiers, des libraires. On peut dater, circonstancier, évaluer même le tirage hein, d'un certain nombre d'agendas qui sont devenus fameux, comme les agendas Sylvestre, les agendas et les almanachs des syndicats agricoles, l'Union nationale des syndicats du Sud-Est, par exemple, a édité de nombreux agendas dès la fin du 19e et beaucoup plus encore à partir du premier 20e. Donc, voilà, on peut regarder, historiser un peu, regarder ce qui se passe du côté des modèles, qui se chargent bien sûr d'orienter, de formater les pratiques d'écriture. Je vous donne vraiment très, très... Donc, on a bien des prescriptions, puis on a en même temps, sur ce volet-là, à la fois des modèles. Voilà ce qu'il faut écrire. Et, voilà, et les supports qui encouragent, qui orientent l'écriture, parce qu'ils ont des cadres pour indiquer les recettes et les dépenses, parce qu'ils ont clairement indiqué, note, à côté de la météo, du temps, des prévisions météorologiques, qui encouragent à coucher quelques... à confirmer ou tester la véracité des pronostics, etc. Alors là, par exemple, 1836, vous avez dans la maison rustique un professeur qui était à l'Institut de Rouville, donc qui a travaillé avec Mathieu de Dombasle, et qui donne un modèle, mais j'en ai. Alors celui-ci est détaillé. Je vous ai juste retranscrit rapidement le contenu de son modèle. Il insiste beaucoup sur la liberté de l'écriture. Hein. On est dans un. Il y a 50 pages dédiées à la comptabilité en partie double, et le journal est l'espace de liberté de l'agriculteur pour faire ses comptes, où là, il peut noter ce qu'il veut. Et par contre, s'il y a une prescription, c'est d'indiquer les conditions climatiques du jour. Donc, des modèles, des prescriptions, je vais aller assez vite. Je les ai repérés à la fois pour ce qui concerne l'écriture masculine, s'adressant vraiment aux agriculteurs, mais aussi en direction du public féminin. Par exemple, vous avez en 1869, dans un plaidoyer pour l'esquisse d'un institut rural féminin, l'idée très précise que l'on pourrait demander aux ménagères de bonne volonté de tenir des registres dans les fermes de façon... Donc on voit les contenus, l'atmosphère, la végétation, le bétail... on a dans la maison rustique, par exemple, des dames que j'ai travaillées, des indications beaucoup plus précises en termes de contenu et d'usage des contenus, ce qui est intéressant. Il prescrit non seulement la façon d'écrire, mais la façon de valoriser ces traces de l'activité. Le lieu, bien sûr, sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse, donc je vous renvoie, j'ai des publications hein, là-dessus. Et puis, ce que je vous présente là, j'ai un article dans Rural History, Agricultural History, y arriver, History Review, qui va sortir dans le prochain numéro et qui fait un peu une synthèse de cette partie de mon travail. Bien sûr, dans les premiers essais de... Enfin, je dis bien sûr, mais tout le monde n'a peut-être pas en tête que ce qu'est l'Institut de Rouville, qui est le premier... les prémices d'un enseignement agricole expérimenté à partir de 1824 sur un domaine et à l'initiative de Mathieu de Dombasle, je fais vite, dans cet établissement qui est destiné à former des intendants, des régisseurs, on forme à la pratique individuelle, qui est intellectuelle, qui est vraiment une conception qui cherche à articuler l'observation de terrain à la théorisation. Et donc, Mathieu de Dombasle, qui est obsédé quelque part par l'ordre dans tout ce qu'il écrit et qui tient quantité d'enregistrements dans son domaine, a institué l'ordre, qui est un moment où passe écriture de toutes les opérations, donc comme vous le voyez, de la journée. Et ces registres sont utilisés pour la pédagogie, c'est-à-dire que c'est en puisant dans l'activité qu'on interroge ensuite l'agronome qui répond à des questions-réponses sous forme de conférence à ses étudiants. Ce qui est intéressant, c'est que l'enseignement agricole en 1848, quand il met en place donc les trois étages de l'enseignement agricole, reprend même l'intitulé de l'ordre et on réserve un temps, une demi-heure tous les jours, à l'emploi du temps des écoles pratiques d'agriculture pour passer l'ordre et donc consigner les opérations du travail dans les fermes, dans les exploitations qui sont associées aux établissements agricoles. Et donc travailler à partir de cela. Rapidement, vous avez une production éditoriale. Je reviens sur les almanachs que j'ai beaucoup. J'ai plein d'exemplaires d'almanachs. Bon, celui-ci a un énorme avantage, c'est qu'il est annoté. Donc, il montre qu'un scripteur s'est saisi. C'est Michel Vernus, un historien qui a travaillé sur les almanachs, notamment le messager boiteux, qui m'a donné accès à ces documents. Il s'agit c'est un agriculteur jurassien, et je n'ai pas mis la date ici, elle est sur l'article, c'est vers 1870, comme ça. Donc vous voyez, c'était donc le compteur amusant. Bon, il y a tous les almanachs de Mathieu de la Drôme, il y a beaucoup d'almanachs de Mathieu de la Drôme qui invitaient également. C'est une pratique très répandue de mettre une colonne juste à côté, jouxtant les prévisions météorologiques réservées aux notes journalières. On est en 1918 pour vous montrer qu'on a vraiment cadré cette écriture quotidienne. Elle a été définie dans une circulaire que j'ai extraite d'un rapport d'un inspecteur, l'inspecteur Chancrin, qui allait regarder comment dans les écoles pratiques d'agriculture on mettait en œuvre justement, on utilisait ou non l'agenda des travaux. Donc vous voyez, il y a deux niveaux d'écriture, une écriture quotidienne, l'agenda des travaux, et un livre d'exploitation qui est plus tourné vers la réflexion personnelle, qui est une écriture de type hebdomadaire. Ces deux outils, ces deux supports d'écriture donnaient lieu à évaluation. Ils étaient consultés donc lors des examens. On est dans l'enseignement public, dans l'enseignement privé, qui était au moins aussi développé que l'enseignement public. On a des cahiers de ferme, on a des cours par correspondance où il est obligatoire d'écrire tous les jours le travail réalisé sur la ferme durant 3 ans pour valider les cours, par exemple, par correspondance qui sont mis en place. On a ensuite dans les maisons familiales rurales le cahier d'exploitation familiale, etc. Et bien sûr, je n'ai pas encore parlé de l'école primaire rurale qui a joué peut-être, c'est même pour certains la seule référence, mais une référence tout à fait capitale, puisqu'on le verra dans les agendas encore beaucoup plus récents. Souvent, la référence à l'univers scolaire est très présente. Et notamment, alors je voulais vous souligner, c'est moins net, ce qui est intéressant. Bon, dans les écoles, on a rendu obligatoire la tenue de comptabilité dans les écoles primaires, pour initier les élèves à la pratique des comptes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que donc dans beaucoup de manuels, celui-ci date de 1800 et quelques, 90, je crois. J'ai fait un peu rapidement, donc je n'ai pas remis toutes les dates. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le journal de notes à côté de quelque chose de plus classique, qui est le relevé des recettes et des dépenses. Et dans le journal de notes, vous voyez qu'on a un relevé quotidien, rentrer trois voitures de trèfle de la pièce du chemin vert, passer à la houe à cheval, 1 hectare, 20 de betteraves à la haie, binage des pommes de terre, etc. Donc on a des exemples qui sont repris par les instituteurs ruraux, qui donnent lieu à des écritures. Et on voit que ce canevas de l'écriture, on va le retrouver dans les agendas de façon identique quasiment. Et puis pour terminer, j'ai exploré bien sûr du côté des mouvements comme celui de l'AJAC, du syndicalisme et ensuite de la vulgarisation. J'ai plus spécialement regardé l'AJAC puisqu'elle a une philosophie du voir, juger, agir, et que dans son principe de base était de demander à tout jeune jaciste rentrant dans un cercle jaciste de produire une enquête. Et donc l'écriture est vraiment racinée il y a beaucoup de discours, on peut faire des analyses de discours, mais aussi voir des outils qui se mettent en place pour initier les agriculteurs à la prise de notes, comme dans ce manuel de 1942 qui résume un peu la philosophie de la prise de notes, qui équivaut à une mastication intellectuelle et qui est particulièrement prisée pour les futurs cadres jacistes. Et puis je saute à grands pas et j'en terminerai là pour la partie historique en ayant un peu touché tous les volets que je vais résumer. Il y a aussi bien sûr la vulgarisation agricole donc les CETA, en filiation d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu, souvent on est jaciste un peu avant 18 ans et très vite installé. On regagne souvent un CETA où on s'insère dans la vulgarisation. Donc il y a des trajectoires, on rencontre de l'écrit, du jaciste, ensuite on tient des enregistrements dans un CETA. Ici, ce sont des femmes, des Setma, et Taylor est rentrée dans les fermes à partir de 1945, où on a créé l'Institut national de l'INRA. On a créé un institut d'organisation du travail scientifique agricole en 1945, dirigé par Piel des Ruisseaux. Et toute la technique, c'est tout chronomètre, et c'était fait pendant un an. Donc il y a des diagrammes, des diagnostics qui montrent que les femmes, pendant un an, je crois que c'est... Il y en a eu dans le Calvados, enfin il y a plusieurs exemples que j'ai relevés. Je vous donne celui-ci parce qu'il est un peu croustillant, mais il y en a beaucoup. Là on voit les femmes, l'objectif était de rationaliser les temps de travaux. Les hommes s'y sont prêtés dans la Haute-Saône. J'ai relevé aussi beaucoup dans les comptes rendus d'opérations d'enregistrement sur les temps de travaux de façon à rationaliser, gagner du temps et de la productivité. Donc on voit qu'il y a eu l'émergence de modèles, un souci de formater les pratiques, on pourrait dire, de l'écriture, ou tout au moins de les orienter. Et qu'on a eu également une institutionnalisation de ces modèles dans des dispositifs éducatifs incarnés par des figures emblématiques, donc l'instituteur rural pour l'école primaire, le maître agricole, le vulgarisateur, l'agromane au 19e. Donc on a des figures qui sont des figures emblématiques de l'écrit, qu'on peut, le militant jaciste beaucoup plus tard, qu'on peut périodiser. Je suis en train de préparer un ouvrage qui va présenter cette analyse. Je passe au deuxième volet de mon travail, que j'ai intitulé « Les archives du quotidien ». Je vous ai expliqué ma démarche. J'avais identifié beaucoup de scripteurs, donc il y a eu tout un travail d'approche. Il y a eu... Donc en fait, une de mes conditions, c'était de pouvoir accéder à des écrits, faire un travail un peu long, engageant, avec les agriculteurs. Il y a eu une certaine sélection. J'ai privilégié les écrits quotidiens parce que beaucoup d'agriculteurs tiennent des agendas mais notent de façon très épisodique des informations. Donc c'était bien l'écriture quotidienne qui me semblait relever d'une posture assez différente. Des écrits archivés le plus complet possible. Et donc là, on revient à ce tableau. Grosso modo, sur 8, donc j'ai fait un travail très qualitatif, 8 scripteurs, souvent il y a les conjoints, on le verra après, qui sont associés, pas dans tous les cas. J'ai un cas de figure où j'ai père et fils, le fils n'ayant jamais vu les agendas du père, jamais. J'étais un père relativement plus autoritaire qui m'a donné tous ses agendas dans un petit carton. Le jour où je suis venue, je ne l'ai rencontré qu'après, ce qui m'a fait un peu gênée parce que ce sont quand même des documents qui ne sortent jamais de la ferme, qui sont pour le coup, le fils n'y ayant pas accès, relativement privés. Donc j'ai utilisé différents relais, souvent le bouche à oreille, les réputations d'écrivains marchent très bien. Le fait de présenter le travail. Je travaille dans l'enseignement agricole, donc j'avais beaucoup de collègues qui avaient soit dans leur famille, soit connaissance de... Voilà, dès qu'on est un peu sur le terrain, on accède très facilement à des écrivains. Grosso modo, des collections assez importantes, la plus longue 40 ans successives, entière pour Roland. J'ai eu un cas malheureux pour Roger, je le dis dès maintenant, qui a découvert à l'occasion de mon enquête que ses enfants avaient jeté une lessiveuse d'agenda, donc il ne lui restait plus que... il y avait des trous dans la collection. Voilà. Et puis, bien sûr, là, j'ai rabattu un petit peu. Les choses sont plus complexes. Les agriculteurs qui tiennent des agendas ont d'autres écrits, par ailleurs, que j'ai aussi un peu regardés. Écriture et famille, juste pour vous donner vraiment grosso modo une indication, on voit qu'il y a des situations où les enfants sont mêlés. Parfois, donc, je vais vous présenter 3 portraits si j'en ai le temps. L'un où il y a vraiment une écriture, alors parfois à 2 mains simultanées ou un passage de relais. Le mari arrête, c'est la femme qui reprend les agendas. parce qu'il y a soit une période de travail trop lourde et c'est la femme qui prend la main, soit maladie, et en général, elle a du mal à rendre l'agenda, et donc voilà, ça, on se bagarre autour de l'écriture pour savoir qui va le tenir, surtout à la retraite. Donc j'ai eu des cas de figure bon, très divers. Vous avez les enfants, des ouvriers aussi, qui ne tenaient pas l'agenda, mais qui avaient des carnets de travail et des fiches de travail dans la cote, directement déduits, extraits d'informations contenues dans l'agenda, qui m'ont été expliquées. Les femmes ont des carnets sur d'autres aussi, des marcheurs de paille, élevage de pigeons, etc. Il y a des calepins, il y a une relative unité, c'est ce que j'ai privilégié, mais il y a des choses aussi un peu à côté. Alors, je vous propose de passer maintenant à la description des contenus, à l'analyse que j'ai faite du lien entre l'écriture et les savoirs, et puis des dimensions que j'ai essayé d'explorer au-delà. Sur la façon de travailler, peut-être deux mots. Donc, je vous ai dit comment j'avais sélectionné les scripteurs. Je me suis retrouvée avec des collections d'agendas pour un même scripteur. Et en fait, j'ai fait des allers-retours. J'ai d'abord lu les agendas et donc, bien sûr, par rapport à la masse, quelles sont les méthodes à mettre en place. Alors, j'ai tâtonné. Je me suis lancée sur l'étude même du corpus écrit. J'ai pris trois angles de lecture, grosso modo, mais il y a eu des tâtonnements. J'ai pris l'agenda comme un spécimen d'une collection. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de repérer des variations en faisant des pioches un peu régulières, tous les 5 ans, pour voir si, ne serait-ce qu'en feuilletant, il y a des choses qui changent fondamentalement dans le contenu, dans le volume de l'écriture, ce que j'ai caractérisé. De fait, on repère des évolutions qui vont dans les deux sens. En général, ça va plutôt vers plus d'écriture au fil du temps, et notamment après la retraite. Mais ça n'est pas toujours aussi systématique. Donc l'agenda comme spécimen d'une collection, l'agenda comme description d'une année de travail, systématiquement d'une campagne. Donc relever, là ce qui m'intéressait, c'était, je pense que vous avez travaillé de façon assez proche, je vais relever les thèmes, travail du parcellaire, conduite du troupeau, météo, déplacement, faits familiaux, rassembler un petit peu les éléments d'information, voir leur distribution au fil de l'écriture des jours et des saisons. Et puis j'ai aussi saisi l'agenda comme un écrit singulier d'un scripteur, même puisque les sociologues s'intéressent aux individus aussi, et à la personnalisation, à l'appropriation de pratiques qui sont modelées par ailleurs extérieurement. Et donc, c'est assez facile finalement de repérer, même si l'écriture est très stéréotypée, de repérer les petits tics d'écriture, les manies, d'identifier qui écrivait dans un agenda. Donc il y a bien des composantes personnelles qui l'écriture resserre ou referme l'horizon suivant les cas. Le familial est un peu plus présent dans certains agendas. Pour d'autres, on va le voir, c'est le technique. Pour d'autres encore, c'est l'économique. Donc on arrive à au-delà d'un écrit individuel, à montrer des configurations d'écriture, à esquisser un peu des typologies. Et puis donc, après avoir fait ce travail de description, c'était des allers-retours pour faire réagir. D'abord, premier entretien, j'ai oublié de le dire, connaître l'agriculteur et faire connaissance pour un sociologue, c'est de façon très ouverte, commencer par le début de la carrière, voire laisser l'agriculteur démarrer là où il veut, pour prendre un peu toute l'histoire de professionnelle et de vie de l'agriculteur, l'évolution du travail, de l'exploitation. Et puis ensuite, j'ai resserré la conduite d'entretien sur parfois des extraits d'écrits à commenter ou à comprendre. J'ai essayé de recueillir un discours sur l'écriture, à la fois sur les contenus et sur les usages, savoir comment les documents étaient manipulés, ce qui est tout à fait essentiel. Donc, autrement dit, il s'agit d'étudier l'écriture et les pratiques de lecture de l'écrit. Dans un processus itératif, on écrit, on lit et on réécrit, parfois chez certains agriculteurs, pour ajuster les écrits. On va le voir. Donc ici, vous avez l'escension. Alors, c'est c'est toujours difficile de choisir parmi la masse des recueilli, mais celui-ci, il est particulièrement emblématique. Il a la trame, il donne un peu la matrice de ce qu'on trouve très souvent dans un agenda, à savoir une écriture du jour qui divise la journée entre le matin et l'après-midi, l'escansion du travail avec des traits qui marquent le passage d'une activité à une autre. Ce n'est pas systématiquement un trait, mais il y a un espace, en tout cas on sent le passage d'une activité à une autre. Éventuellement les portes du travail, quand il y a un déplacement où on ne fait rien, on voit que c'est plus espacé. Vous avez des indications chiffrées, hein, semées, donc on a les noms du parcellaire, les hectares travaillés, la variété Capitole. Puis vous voyez en dessous Michel et Colette qui sont arrivés à 11h, sont les enfants. Voilà, parfois on a l'indication des réunions de mairie quand c'est un maire, parfois aller à l'église, enfin il y a, en fin de journée il peut y avoir des choses qui sortent du cadre professionnel. Là c'est vraiment des éléments récurrents de tous les agendas, y compris aujourd'hui dans ceux que je consulte quand je vais dans des exploitations, puisque je fais beaucoup d'enquêtes actuellement. Y compris à l'étranger, je retrouve toujours début, terminé, commencé, fini. Voilà, ce sont, et vous les avez, je les ai vus dans les agendas de Pierre Lebuc, je les ai trouvés dans les agendas Tina Jolas, je les ai trouvés chez Gilbert Klein. Commencé, fini, ces butées temporelles sont tout à fait centrales et on les comprend si on comprend les particularités du travail agricole. Donc, comme je suis sociologue du travail, j'ai un peu comparé, essayé de pointer ce qui pouvait justifier l'intérêt de ces repères spatio-temporels. Et de fait, quand on a une activité très éclatée dans l'espace et dans le temps, pouvoir comprendre le début et la fin, on va voir dans les manipulations que ça aide à des repérages très, 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 très faciles. Une période de semis, on remonte quelques pages, on trouve le début, on trouve l'indication de la fin et on sait le temps qu'elle a pris. On a l'agenda de l'année précédente. On peut comparer si les semis ont été plus étalés que d'habitude. Vous avez une indication météo, sec et froid, moins 5, ça suffit pour commencer à interpréter les choses. Ah oui, on n'a pas pu travailler, on n'a pas pu aller dans les parcelles, etc. Donc tous ces raisonnements-là, je ne les ai pas devinés toute seule, hein, mais les agriculteurs m'ont bien expliqué, voilà, sec et froid, c'est banal. Pour la météo, c'est quand même assez sommaire. On verra qu'il y a parfois des comptes rendus beaucoup plus, des transcriptions beaucoup plus détaillées de la météorologie. Mais ça suffit pour pluie pendant une semaine, ça suffit à l'agriculteur dans un effort pour comprendre le rythme de travail. Sachant qu'en agriculture, faire à temps, c'est le cas de tous les travailleurs du vivant, c'est un enjeu central, parce que si on ne fait pas à temps, on rate. Hein, il y a des chronologies avec des répercussions dans le raté d'une intervention qui ne peuvent pas se récupérer sur les cultures comme sur les animaux dans certains cas. Et donc, c'est vraiment une des angoisses caractéristiques des travailleurs du vivant. Avec ces repères, on sait si on a pu faire à temps ou pas, et si on peut s'attendre à plus ou moins de difficultés, par exemple, sur les récoltes. Donc là, vous avez le fil de l'activité. Vous voyez que la météo, elle peut ouvrir le jour ou le clore. Alors, tous ne notent pas la météo, mais ceux qui la notent en font un traitement particulier. Au-delà de l'intérêt dont les raisonnements m'ont expliqué comment, effectivement, ils pouvaient utiliser et mieux interpréter le déroulement de leur travail. Donc, c'est une information qui, pour certains, est tout à fait précieuse. Et puis, pour vous donner à voir, à côté des agendas, le genre d'analyse qu'on peut faire aussi sur les écrits, puisque c'est souvent l'agenda côtoie ce genre de mise en liste. Il faudrait que je vous indique aussi que dans l'agenda, on a des listes récapitulatives, des listes prospectives. On peut avoir, par exemple, ici, un synoptique dévélage, qui est un outil particulièrement performant pour s'informer de la campagne, où en est-on dans les vélages, et suivre en un coup d'œil un peu. Voilà, on a tout le troupeau ici, et un certain nombre d'analyses qui peuvent être faites sur ces notes. Alors, je passe à quelques portraits pour terminer. Vous avez vu un peu la trame, la matrice de ces écritures. On va voir comment les nuances qu'on peut trouver suivant les scripteurs. J'ai fait 8 monographies dans ma thèse, hein, d'une vingtaine de pages chacune, qui restitue à la fois la rencontre, l'histoire de l'agriculteur, et qui mêle histoire de l'agriculteur et contenu d'écriture. Voilà, j'ai essayé de tailler un peu sur mesure une façon de faire des monographies, puisqu'il n'y avait pas trop de modèles, et je l'ai ensuite systématisé pour tous les scripteurs en introduisant chacune des monographies par une petite phrase qui me semblait tout à fait emblématique, de même si on peut dire qu'il y a des techniques, des économies, puis certains qui sont surtout intéressés par les traces, l'histoire. On a ces trois grands groupes un peu qu'on peut parfois appréhender, hein, discriminer, mais il y a des phrases beaucoup plus fines, hein, qui donnent beaucoup plus le rapport à l'écrit, comme celle-ci: je savais ce que je faisais, j'étais tranquille avec mes repères. Donc là, c'est Albert et Josette. Alors c'est Albert qui note surtout, Josette en fait utilise l'agenda pour faire passer des petits mots à son mari quand elle n'est pas contente, donc c'est plutôt un usage, je vous ne le verrai pas là, mais là il y avait des problèmes familiaux parfois qui se jouaient dans l'agenda et dont le couple m'a parlé sans aucun problème. J'étais médiatrice un petit peu dans l'affaire. Alors, j'ai choisi cette... donc là, on est sur une... je vous donne un extrait. Alors, effectivement, je l'expliquais au repas. Bon, il n'y avait pas numérique à l'époque, donc ce sont des photocopies. Aujourd'hui, j'ai des matériaux qui sont beaucoup plus nets. Il faudrait que je retourne voir mes scripteurs pour pouvoir scanner, photographier un peu leurs documents. Ce qui est intéressant, alors c'est un peu particulier, hein. On est loin de le voir chez tous les exploitants, scripteurs avec lesquels j'ai travaillé. Ici, on a un souci non seulement d'écrire, mais de codifier des procédures, ce qui s'explique par l'histoire de la personne qui démarre et qui s'installe chez son beau-père, et qui veut un peu prendre de l'autonomie, qui n'est pas du terroir et qui a besoin de se construire une culture des procédés techniques, qui a beaucoup de choses à apprendre. Et pour apprendre, il va commencer à noter ce qu'il fait au fur et à mesure. Donc il récapitule dans des agendas, mais il n'écrit pas au jour le jour. Pendant longtemps. En fait, il utilise des pages comme ça au hasard, le support, pour faire des résumés, des récapitulatifs de procédures de travail, comme ici. Et vous voyez que ce qui est plutôt rare, ça va être le cas des deux scripteurs que je vais vous présenter, il y a des réflexions, des observations qui sont notées, et non seulement des descriptions. C'est ce qui distingue vraiment ces deux scripteurs. Donc là, on voit qu'il y a des réglages sur le semoir, peut-être un peu faible, graines belles au milieu, des appréciations, etc. Et de fait, on verra ensuite, voire levé, mettre 6 sans inconvénient. Souvent, l'agriculteur reprend son écrit. Donc on a bien une boucle, on écrit, on observe et on corrige pour être sûr. Et on tente ensuite un petit peu de formaliser. C'est toujours le même agriculteur en 67 qui indique quand est-ce qu'il a planté les betteraves et qui donne tout le déroulé avec quelque chose d'intéressant pour les analystes du travail. Il inclut une clause d'exception relative à la météo. Donc à la fois la codification de la pratique, mais ne pas rouler derrière, c'est inutile en temps de pluie, désherber, etc. Donc ça, c'est plutôt rare. C'est un agriculteur qui ensuite s'est mis à écrire au quotidien régulièrement. Et alors bien sûr, on peut dire une fois que cet agriculteur est devenu expert, est-ce qu'il a continué à écrire? Et en fait, il a continué à écrire ses observations, hein, toujours dans l'idée de fignoler, de perfectionner, une envie de maîtrise qui était relativement affirmée, hein, de prise sur son activité, de connaissances, d'essais. Hein. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'essais sur les cultures notamment. Il a un peu la même attitude sur la partie élevage où il codifie les rations alimentaires des vaches. Juste quelques... Ce sont des aperçus. Je vais vous présenter, donner un petit aperçu aussi de l'écriture de René. Qui est un exploitant dont... Alors, autant le premier avait peu d'ancrage d'écriture familiale en arrière-plan, autant pour René, c'est vraiment la première des choses. Et je pense qu'il y a toujours du sens à savoir quels sont les premiers éléments d'information qu'on donne sur l'écriture de justification. Là, c'est le volet familial, la tradition familiale et surtout l'admiration. L'admiration pour les écrits anciens. Je vous dis un peu tout de tête, alors il faudrait que tout ça est dans les monographies que je n'ai pas relues entièrement. Mais en gros, les grands-parents, il y a des écrits dont il est très fier, qui décrivent déjà les travaux des fin du 19e siècle, que je n'ai pas vus d'ailleurs. Mais donc là, il y a une tradition d'écriture. Il y a aussi c'est quelqu'un qui était en maison familiale rurale et qui était sur une toute petite exploitation. Donc il y a dans le discours une forme de revanche. C'est vraiment l'attitude de l'autodidacte pour René, qui n'a pas pu rester à la maison familiale, notamment pour une question d'écrit a priori, parce qu'en décrivant la tradition maison familiale rurale, c'est de noter quand on va dans l'exploitation, quand on est dans l'exploitation familiale, d'indiquer ce que l'on fait. Et comme l'exploitation était particulièrement de petite taille, avec a priori des méthodes de travail un peu traditionnelles, l'étudiant s'est fait moquer pour ce qu'il renvoyait et il a très vite cessé de l'école. Et en forme de revanche, il a cultivé une pratique de l'écriture assez importante et de la lecture en se formant à des disciplines comme la météorologie, la pédologie, en tout cas en étant très, très, très tourné vers l'étude. Alors, en termes d'écriture, mon adolescent, il tient des petits carnets qu'il m'a montrés. Une pratique classique, c'est que l'agenda institue la reprise, la succession. Donc, quand le père arrête, souvent, c'est au moment de l'installation que l'on ouvre, l'année de l'installation, que l'on ouvre le premier agenda. Là, en l'occurrence, donc, il y a des carnets de jeunesse qui indique le travail que fait René dans la ferme familiale, les bières qu'il boit des fois. Donc il y a tout un compte-rendu, mais que je n'ai pas fait, de ces carnets de jeunesse, qui pourraient être intéressants. Et puis là, je voulais vous pointer, donc à partir de... Pendant, il avait à peu près 15 ans d'écriture à Cultivar. Cultivar, c'est une revue qui est dédiée qui s'adresse à des céréaliculteurs. Et cette revue professionnelle édite de gros agendas qui ont un peu l'apparence d'un livre, qui sont assez, avec une couverture cartonnée plus épaisse que déjà en taille. L'agenda est beaucoup plus volumineux et puis il a l'apparence d'un livre avec une couverture cartonnée épaisse. Il propose aux agriculteurs des cadres d'enregistrement sur la météo. Et vous voyez ici que l'agriculteur raffine, brode autour de ses propositions, en rajoute sur des séquences météo. C'est une écriture qui a été repérée par Tina Jolas et Solange Pinton, où le paysan de Creuse faisait exactement la même chose, décrivait le temps par séquence, sachant qu'il le décrivait de façon encore plus évocative, en parlant des nuages et en mêlant des termes scientifiques et des termes indigènes. Donc il y a souvent sur l'écriture des choses un peu plus fleuries quand on est dans le domaine météo. Et plus émotive aussi, on le verra, les femmes, s'il y a de l'émotion qui perce un moment dans l'écriture, c'est à propos de la météo, soit parce qu'il y a des catastrophes, une avanie climatique, une sécheresse catastrophique qui donne lieu à quelques épanchements dans l'écriture. On retrouve exactement ce genre de choses dans les livres de raison également, que j'ai pu consulter, comme celui de Pierre Bordier, dans Jean Vassor. On voit bien des commentaires sur parfois les événements climatiques extraordinaires, exceptionnels. Alors ici, on a ce souci de la météo, qui dépasse sans doute le professionnel, qui renvoie aussi à une passion. Et puis, on a des bilans des récoltes qui sont parmi les plus pointus, les plus précis. Donc là, on a des relevés sur l'état des cultures, avec les détails que vous voyez, que je ne commenterai pas, mais on voit qu'il y a des rendements. On a sur une autre, je vais vous en montrer un deuxième. Ah, voilà. Où là, on a les commentaires, ce qui est aussi intéressant. C'est le deuxième scripteur qui fait part de ses observations. Troisième type d'écrit, et je vous l'ai dit, qui est vraiment de l'écriture à deux mains, le fignolage. Bon, d'autres diront, le soir, je révisais ma journée. Avec l'univers scolaire pour référence, et la prière du soir, effectivement, comme sans doute façon de se rendre compte à soi-même et rendre compte peut-être aussi devant Dieu de la bonne réalisation, de la plénitude du travail accompli. Il y a ces démarches-là. Donc là, l'écriture faisait partie du fignolage. Dans certains cas, j'ai aussi des phrases qui caractérisent une monographie où c'est une journée sans écriture. C'est comme si la journée n'avait pas existé. Une journée sans écrit, c'est comme si la journée n'existait pas. Donc on voit les... Alors, Roland et Colette, on a le premier agenda qui est tenu en 1953 et finalement l'écriture n'évolue quasiment pas. On voit juste par contre dans cette monographie, j'ai plus joué sur la comparaison écriture masculine, écriture féminine. Elle est régulière, elle est très très peu technique, on n'a pas de données énormément chiffrées, sinon quelques récapitulatifs que je vais vous montrer. Donc le principe de l'agenda, c'est d'utiliser le calendrier pour retracer et faire des chroniques imperturbables du travail au quotidien. Et puis, dans les agendas en général, il y a des pages de fin de semaine, bon, presque systématiquement de fin d'année, de fin de mois, parfois aussi de fin de semaine. Et donc, les agriculteurs peuvent saisir ces espaces pour faire des récapitulatifs. Parfois, ils les font directement sur la page. Ils ne respectent pas forcément les cadres d'enregistrement qui leur sont proposés. Donc là, vous avez la météo. Cette écriture est très organisée. Elle est presque sur... J'ai 40 ans, là. Elle est presque sur 40 ans. Le schéma ne bouge pas. Le temps, l'activité. Et puis... très peu d'éléments familiaux par bribes. C'est plutôt donc dans les pages de notes. Là, c'est quelqu'un qui a été studieux et qui, je n'étais plus tout à fait sûre, qui a vraiment... donc vous avez des récapitulatifs de production laitière. Vous avez parfois des listes d'achats prévisionnels, d'achats d'engrais. Un aspect que je n'ai pas signalé, c'est qu'à côté de l'agenda, l'agenda peut incorporer des documents. Des papiers qui sont jetés, pris dans les pages, des factures, des dos d'enveloppes sur lesquels figurent des opérations. Et on voit vraiment, on est dans la furie de l'écriture, dans le vif de l'écrit et de la réflexion sur l'activité. Donc ces petits bouts de papier, je les ai aussi un peu observés, dans la mesure où ils étaient intercalés dans les pages de l'agenda. Et puis, donc vous avez ici voilà, le cas d'un excès du temps, record battu, le nombre rentré 6600 bottes de foin depuis le 29 juin, donc les récapitulatifs, année 350 sacs d'orge. Dans la dynamique de l'écriture et dans les rapports entre couple et écriture, on a souvent un jeu de reproches. On peut avoir des complicités et des jeux de reproches du type « tu n'écris pas assez, tu n'es pas assez régulier ». En général, ce sont les femmes qui adressent ce genre de reproches aux hommes. Et qui, en l'occurrence, dans ce couple, a valu le fait que ce soit la femme qui reprenne en main les agendas à un certain moment. Donc, il y a toujours un positionnement que j'ai essayé de relever sur la vision qu'on a de ce qu'est la bonne écriture et des jugements de valeur sur la qualité de la tenue des agendas. Généralement, tout ce qui relève de l'élevage et particulièrement des naissances est attribué, renvoie à l'univers féminin, à la maternité sans doute. Et donc, ce sont les femmes qui tiennent les papiers des vaches, les carnets sur les veaux. Les animaux étant bouclés, il y a beaucoup d'écritures répétitives avec les numéros pour tenir la généalogie. Bon, ici, ce sont de vieux documents où on demandait encore à l'époque aux agriculteurs et en l'occurrence aux agricultrices de signaler, de décrire les animaux. Vous avez des commentaires sur la robe. Souvent, les femmes tiennent des comptabilités. Je ne l'ai pas signalé, mais c'est un élément que j'ai un peu exploré. Je ne peux pas tout traiter là dans l'exposé. Et puis enfin, on parle beaucoup d'entraide dans le monde rural. Et j'ai rencontré, surtout sur des écrits beaucoup plus anciens, dans des livres de contes du début du XXe siècle qui étaient dans les familles. J'en montre quelques-uns dans ma thèse. Très, très souvent, l'entraide se double, même si elle se fonde sur un accord oral, voire sur du complet informel. Au pied levé, on va, si besoin, aider quelqu'un dont la machine est tombée en panne, ou aider à rentrer une récolte quand l'orage menace. Il n'empêche que cette entraide, elle est relativement formalisée dans les agendas. Et donc, voilà, je pense que ça pourrait être tout à fait passionnant. Je suggère, bien sûr, j'avais conscience que quantité de pistes de travail pouvaient, quantité d'approfondissement par des historiens, des ethnologues pourraient être faits. J'avais moi-même tenté, par exemple, de relever systématiquement tous les noms apparaissant dans un agenda, les noms de tiers, et d'identifier qui étaient les personnes. Donc j'avais repéré que ce qui est intéressant, donc il y avait les coups de main, mais je pouvais les deviner puisque quand Marcel prêtait son tracteur, c'était indiqué, donc on pouvait repérer la nature. Dans d'autres cas, c'était assez intéressant parce qu'en l'occurrence, il y avait des stratégies de rachat de terres, et donc on entretenait les liens, les relations, et donc on peut dérouler, quand on a des agendas comme ça complets, dérouler tout le réseau de relations à la fois professionnelles et sociales, puisque souvent il n'y avait pas de voiture et on voyageait à plusieurs quand on allait à la ville voisine, ce qui, je crois, dans Pierre Le Bugle est signalé, c'est signalé dans mes agendas aussi très, très souvent. Et on voit vraiment apparaître les machines, l'automobile individuelle, la fin des battages, bien sûr, collectifs, d'un certain nombre d'activités collectives, et il n'y a plus de noms dans les agendas. Ça, je l'ai vraiment enregistré. Dans certains agendas, c'est très saillant quand on fait une étude chronologique. Alors, bon, je n'ai pas cherché, je ne me suis pas focalisée, puisque ce n'était pas le cœur de mon travail, mais je signalais des pistes d'approfondissement possibles de ce type. Donc, l'entraide, doublée d'un filet d'écrit, de façon à bien suivre et de ne pas être en dette dans une logique de don contre don, où il faut rendre, bien sûr, où on sait depuis que les anthropologues nous ont décrit le potlatch, qu'il faut rendre et voire rendre plus que ce qu'on nous a donné. Alors, en l'occurrence, pour ce couple-là, l'écriture est moins tournée vers... ce qu'on m'a mis en avant, c'est beaucoup plus le plaisir d'avoir une mémoire. Et donc le plaisir de se fabriquer une mémoire à soi. Les agendas sont sortis en famille parfois. On va rechercher les agendas plus anciens si besoin pour des voisins. Et donc c'est la composante du labeur, d'une vie accomplie qui est une dimension très, très forte. Donc comme j'ai distingué trois grands styles d'écriture et d'écrivain, l'un tourné vers le technique, l'autre mettant en avant une perspective de trajectoire d'ascension économique, hein, de consolidation d'une structure, d'agrandissement, et de fait avec des pratiques de gestion beaucoup plus fines que ce que l'on repère ici. Et puis le troisième volet, c'est vraiment l'écriture comme récit et comme trace. Voilà. Ben, je crois que j'ai presque terminé parce qu'en fait, donc là on était sur les. Je voulais juste vous signaler, donc il y a deux diapos pour terminer. Le travail du crayon, il a été. Donc là c'est le Larousse agricole de 52, celui de 21, il est passionnant parce qu'il a un article sur l'agenda. Donc j'ai relevé aussi un peu toutes les mentions, je fais une recherche systématique sur les agendas dans la littérature, manuels de comptabilité, les publications de la maison rustique, et j'ai suivi un peu la trace, mais j'ai pas le temps. C'est dans l'article anglais, je présente tout cela. Donc j'ai regardé comment on mettait en scène. Alors les bureaux, on ne les met pas en scène, sauf justement à partir de 1952. Il y a très peu de bureaux. J'ai un manuel qui est assez passionnant, 1929, qui montre le bureau, mais plutôt d'un notable, d'un agriculteur, beauté, avec un mobilier, des classements, etc. C'est surtout à partir des années 60, lors de leur journée nationale, la FNCTA consacre tout un dossier au bureau de l'agriculteur. Et là, c'est une petite mine pour décoder les messages qu'on fait passer aux agriculteurs. Et donc, on a cette vision-là, un peu désuète, hein. C'est pas du tout un agriculteur jeune, et manifestement, bon, il a un outillage un peu varié, il a sans doute un agenda, bon, on n'arrive pas à zoomer et à savoir ce qu'il y a. Et pour finir, donc, je voulais, entre cette image, on a aussi l'agenda qui est présenté dès les années, donc là, c'est 63, mettre une question, alors il y a beaucoup de questions. Quid des agendas, de l'urgence ethnographique à préserver cette source, mais il y a aussi des questions, une question avec laquelle je travaille beaucoup, est-ce que l'agenda est un outil anachronique? Alors en 63, aux yeux du directeur de l'INRA, de l'IOSTA, qui était l'organisation scientifique du travail agricole de l'INRA, bien sûr, il était déjà primitif, l'agenda. Donc c'était intéressant de voir qu'il y a un décalage presque de... Tous mes agriculteurs qui tenaient des agendas et qui faisaient peu ou prou figure d'une certaine modernité pour un certain nombre d'entre eux, en fait, du point de vue de l'environnement scientifique et encore plus de l'appareil de développement agricole, l'agenda est présenté comme un outil qui n'est pas, qui est un peu dépassé parce qu'il faut faire des traitements statistiques. Et donc les conseillers ont beaucoup... ayant connaissance des agendas, ont un rapport assez ambivalent. Pensant que ce n'est pas la bonne écriture, en tout cas une écriture qui n'est pas suffisamment efficace, et on passait beaucoup de temps à concevoir des outils d'enregistrement, substitution, beaucoup plus techniques. Voilà, donc je termine là-dessus. J'espère ne pas trop avoir débordé.